auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. J'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices et bienvenue à cette nouvelle émission de La Terre à l'Assiette sur Radio Pardas au 107. Et cette émission vous est donc présentée par Jackie et moi qui représentons les associations Vergers de Lozère et Jardin Nature 48. Alors pour commencer, nous allons vous parler de cette période de transition de la mi-avril à la mi-mai entre l'hiver et l'été, qui est une période très vulnérable à la météorologie capricieuse. Les arbres fleurissent, les semis commencent à lever, mais les gelées peuvent encore se produire et faire des dégâts importants dans les potagers et les vergers. Alors, autrefois, les paysans se tournaient vers le ciel et invoquaient les saints du calendrier pour qu'ils protègent leurs récoltes. Et au fil du temps, il a fini par y avoir une confusion entre la cause et l'effet, et les paysans se sont mis en fait à accuser les saints de glace et les cavaliers du froid de négligence si les plantations prenaient un bon coup de gel. Alors donc, du 25 avril au 6 mai, nous avons les cavaliers du froid, qui sont Saint-Georges, Saint-Marc, Saint-Robert, Saint-Philippe et Saint-Jean l'Évangéliste. Dans les pays vignerons, on appelle Saint-Georges et Saint-Marc les saints grêleurs ou les saints vendangeurs, selon qu'ils compromettent ou au contraire qu'ils favorisent les vendanges. Ensuite, faisant suite aux cavaliers du froid, avec qui on les confond donc souvent, on fête les saints de glace, qui sont Saint-Mamère, Saint-Pancras et Saint-Servé, les 11, 12 et 13 mai. Mais en 1960, l'Église catholique romaine s'est alarmée des relents de paganisme attachés à ces saints météorologiques et le Vatican les a remplacés par des saints sans vocation agricole particulière qui s'appellent Saint Estelle, Saint Achille et Saint Roland, qui sont un peu fadas mais nettement moins sulfureux. Alors maintenant, je pense que Jackie pourrait commencer à nous parler de la façon dont de se protéger contre ces gelées tardives dans le potager ou au verger.
Oui, bah écoute, ces saints de glace, effectivement, sont invoqués par les agriculteurs donc pour parler, comme tu le disais, d'un refroidissement de la température. Alors j'insisterai là-dessus, c'est plutôt un refroidissement de la température qu'une gelée à coup sûr sur cette période-là. En effet, on se rend compte, quand on relève les températures, que ça baisse d'environ 5 degrés. Ces trois nuits un petit peu fatidiques, qu'on appelle de lune rousse, parce que ça fait roussir les végétaux. Ce qui veut dire que si on a autour du 10 mai, qu'on a les nuits qui sont à peu près à 10 degrés, eh ben, on ne va pas craindre pendant ces trois saints, puisque en fait, 10 degrés moins 5, eh ben, on va avoir des nuits autour de 5, 4 ou 3 degrés. Donc, méfiez-vous, ce n'est pas obligatoire, cette histoire de saint de glace. D'autant moins que on est aussi dans une période de dérèglement climatique et de réchauffement. On se rend compte au fur et à mesure, quand on regarde bien dehors, que petit à petit, on a de moins en moins froid. Alors néanmoins, on peut effectivement user de protection, je pense davantage même dans la partie nord de la Lozère, ou en tout cas les parties en altitude. C'est là où c'est intéressant d'utiliser des châssis, des tunnels, pourquoi pas une serre, ou alors plus simplement, pendant quelques jours, quand on aura semé des végétaux comme ça, de mettre du voile de forçage par-dessus nos plantations. Il y avait aussi l'histoire des bouteilles plastiques sur lesquelles on s'était un petit peu allongé. Enfin, on avait discuté de ça l'émission du mois dernier. Ça aussi, des bouteilles plastiques sur des plants isolés, ça peut très bien permettre de redonner quelques degrés de température. En fait, donc là, ça va être surtout sur les semis sur place, comme les cucurbitacées. tout ce qui est cucurbitacé, ce qui est aussi les haricots, puisque traditionnellement, on doit semer les haricots à la Saint-Didier, c'est-à-dire le 23 mai. Normalement, c'est une date à laquelle on ne craint plus les dernières gelées. Donc, ça peut se faire toujours un petit peu plus tôt, mais disons que traditionnellement, c'est une bonne date le 23 mai. Voilà ce qu'on pouvait en dire un petit peu.
D'accord, parce que après la mi-mai, statistiquement parlant, les gelées ne sont plus à craindre. Alors, je voulais revenir sur ce que tu disais sur la lune rousse, qui n'est pas le fait que la lune soit change de couleur, mais c'est simplement donc la lune qui roussit les cultures, parce que quand on la voit bien, c'est parce que le ciel est clair. Et laquelle est bien visible, ce qui veut dire que le rayonnement de la Terre se perd dans l'espace, il n'y a pas de couverture nuageuse, et c'est l'absence de nuages qui est menace de gel. Alors, donc, cette lune rousse, c'était plutôt une lune qui roussit les cultures. Alors, donc, nous parlons des haricots, et... qu'est-ce que tu as à nous conseiller pour la plantation des haricots ? Est-ce que tu les commences à l'intérieur ou est-ce que tu les mets directement dehors ?
Alors, la meilleure solution pour les haricots, me semble-t-il, c'est directement en pleine terre. Là, vous avez deux solutions. Ou bien on plante un haricot en ligne, hein, on fait un petit sillon, et ou bien on plante un haricot à peu près tous les 5 cm. Ou bien on fait ce qu'on appelle des poquets, c'est-à-dire que tous les 20 cm à peu près, on va mettre 3-4 haricots en même temps. L'avantage de regrouper des graines comme ça, c'est que au moment de l'éclosion, ça va libérer des hormones qui vont pouvoir servir aux autres graines. Donc, c'est l'intérêt du poquet. Maintenant, au niveau des haricots, vous avez des catégories différentes de haricots. Quand on vieillit, qu'on commence à bien vieillir, et ben les haricots grimpants, c'est intéressant parce qu'on a pas mal au dos pour les ramasser. Moi, je vous préconise ce genre de plante. Un petit truc aussi, parce que les trucs et astuces, c'est toujours intéressant. Quand vous avez des haricots grimpants, interdisez-vous de ramasser sur les premiers 50 cm de hauteur. Simplement parce que ces haricots-là, vous les garderez à la fin d'été pour faire de la graine, de la semence pour l'année suivante. Et on est toujours un petit peu en retard quand on veut garder de la semence. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de, dès le début de la saison, eh ben, on ne ramasse pas ces premiers 50 cm. Et vous verrez qu'au mois de septembre-octobre, eh ben, ces haricots-là seront secs et on pourra garder la graine. Autre haricot qu'on peut faire, bien sûr, c'est les haricots filets, hein, qui sont les haricots verts les plus fins. Les haricots mangent tout. C'est des haricots verts qui sont un petit peu plus gros, un petit peu moins présentables, mais qui ont l'avantage de vraiment ne jamais avoir de fil. Vous pouvez aussi faire des haricots qu'on appelle les haricots blancs. Les haricots blancs qui vont se récolter au mois de septembre, qui vont se récolter secs. Là aussi, une petite astuce, quand vous les récoltez secs au mois de septembre, ils ne sont pas complètement desséchés. Ne les mettez pas à dessécher, mais congelez-les tels qu'ils sont. Ça vous donnera l'avantage de ne pas avoir besoin de les faire tremper pendant 3 heures ou une demi-journée dans l'eau avant de les faire cuire. Vous pourrez les faire cuire directement comme s'ils étaient frais. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire rapidement sur les haricots.
Bien, eh ben, nous allons peut-être faire une petite pause musicale. Et qu'est-ce que tu nous proposes alors, Jackie ?
Eh bien, justement, une chanson fort à propos, me semble-t-il, humoristique de Bourvil qui s'appelle « Les haricots ».
C'est parfait.
On doit chanter ce que l'on aime, exalter tout ce qui est beau. C'est pour cela qu'en un poème, je vais chanter les haricots. Alors que tout repose encore, dès le premier cocorico, ah qu'il est doux quand vient l'aurore, de voir semer les haricots. Et puis un jour sortant de terre et se dressant toujours plus haut, vers le soleil, vers la lumière, on voit pousser les haricots. Au printemps, la rose est éclose, en été le coquelicot. Mais quel spectacle grandiose de voir fleurir les haricots. Plus tard, les paysans de France, s'agenouillant, courbant le dos, ont l'air de faire révérence pour mieux cueillir les haricots. Mais ces courbettes hypocrites, pressées de la main du bourreau, qui les jetant dans la marmite, met à bouillir les haricots. Et lorsque vient leur dernière heure, on les serre autour d'un gigot. Et chaque fois, mon âme pleure, car c'est la fin des haricots.
Nous sommes bien sûr dans l'émission De la Terre à l'Assiette sur Radio Partas au 107 et nous venons d'entendre les haricots de Bourville.
Alors on a des petites annonces à vous faire de troc-plantes, de marché aux fleurs, etc. La première, dans l'ordre chronologique, ce sera le 8 mai à Chirac sur la place de l'église, toute la matinée.
Ensuite, le 12 mai à Fleurac, n'oubliez pas, il y a la grande foire de mai, et où il y a énormément de plantes. Et cette foire se déroule traditionnellement à l'ancienne gare de Fleurac.
Le 16 mai, il y a Plan Peau Plume qui va se dérouler à la Canourgue. C'est même à Banassac, hein, à côté de la Canourgue. Cette foire aussi a pour vocation d'avoir beaucoup d'exposants au niveau des plantes, quelques volailles aussi. Il y a même des potiers qui y viennent. C'est un bon rendez-vous, donc le samedi 16 mai.
Et nous avons aussi le mercredi 20 mai, à Fleurac, une conférence sur les pommes de Bretagne. Donc, c'est le 20 mai à 18h, à la salle communale rue Cipesert, derrière la poste, à l'entrée de la Perception. Elle sera donnée par Jean-Pierre Rouleau, qui est président de l'association Arborer Pommes, qui présentera des recherches pour la sauvegarde de la diversité génétique, la collecte des variétés, la création de vergers conservatoires en cornouailles bretonnes. Nous y associerons un atelier sur table d'initiation aux différentes techniques de greffe et un troc de plantes. Mais nous vous donnerons des détails plus approfondis par voie d'affichage et par Radio Partas en temps voulu. Alors maintenant, un petit tour au chapitre consommation. Elle sent le soleil, elle est fruitée, c'est l'huile d'olive, symbole de l'été, de la bonne cuisine méditerranéenne, de la santé. Ça fait 3000 ans que l'on sait que l'huile d'olive est bonne pour la santé, mais maintenant on sait pourquoi. Parce qu'elle est anti-cancer, anti-vieillissement cellulaire, elle contient de la vitamine E, elle contient énormément de bon cholestérol, etc. Hélas, en Italie, la mafia s'est emparée de ce marché qui est extrêmement lucratif. Et une enquête italienne, très inquiétante, a révélé que sur 4 bouteilles d'huile d'olive extra vierge, soi-disant italienne, sur 5, elles sont en réalité frelatées, coupées avec de l'huile étrangère de très mauvaise qualité. La fraude commence par des étiquettes trompeuses comme extra vierge, première pression à froid, etc. Et ces huiles sont présentées dans des emballages flatteurs aux couleurs de la Méditerranée. Cette fraude à l'huile d'olive est devenue une véritable spécialité italienne. Et on s'est aperçu que l'Italie réussit, grâce aux fraudes bien huilées, si j'ose dire, à faire un tour de passe-passe absolument monumental. Elle exporte beaucoup plus d'huile d'olive qu'elle n'en produit. L'Italie produit environ 700 000 tonnes d'huile d'olive et elle en exporte 1,5 million. Alors cherchez l'erreur. Donc c'est une véritable mafia agricole qui joue sur la non-traçabilité des olives et contrôle le marché de l'huile d'olive. Apparemment, le gain est phénoménal, bien supérieur à celui du trafic de cocaïne sans les risques. En France, la consommation d'huile d'olive dépasse très largement la production nationale. Les huiles importées concurrencent souvent les huiles françaises, de qualité et plus chères. Et parfois, il y a beaucoup de contrefaçons, notamment sur les marchés de Provence. Tout est dans la présentation et l'atmosphère. A priori, le touriste pense que tout ce qui est vendu sur les marchés est local et les revendeurs trichent beaucoup sur la provenance. Conclusion, on peut quand même trouver des huiles de qualité en France. Et là, il faut encore bien lire les étiquettes. L'indication de la provenance de l'huile ou de la variété des olives, comme picual, n'est pas obligatoire, mais si elle est indiquée, c'est bon signe. Il faut aussi suivre quelques conseils pratiques pour la choisir en fonction des sigles et labels comme IGP, AOC, AOP, DOC, mais même la mention simplement européenne est déjà rassurante. Et ensuite, il faut la conserver dans de bonnes conditions car contrairement au vin, l'huile d'olive se détériore vite avec le temps.
Rien à dire de plus.
Bon, ensuite, nous allons maintenant parler des petites cueillettes de printemps. Et la saison de la sève de bouleau est terminée. Mais nous avons maintenant, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons Jackie, l'épinard Bonne-Henri, la cabridelle, l'ail des ours, les morilles. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur tout cela ?
Eh bien, je peux essayer de dire un petit peu au niveau botanique. Hein, par exemple, sur l'ail des ours, donc son origine première de l'ail des ours, elle est sauvage, hein, puisque c'est une plante qui pousse en sous-bois. Après sa découverte, elle a été cultivée dans les potagers afin de bénéficier de ses différentes propriétés. On la retrouve aussi dans les massifs comme plante ornementale, puisqu'en fait, la fleur est assez jolie. L'ail des ours porte ce nom, car c'est le mets favori des ours après leur hibernation. Hein, quand ils ont besoin de rapidement reprendre des forces, donc ils mangent tous azimuts, et l'ail des ours qui pousse à ce moment-là est vraiment vite ingurgité. Alors, ce que je préconiserait quand même, si on veut cultiver l'ail des ours, c'est au lieu de récupérer un plant sauvage, vous savez que nous, on préfère quand même laisser ça dans la nature, donc il conviendrait plutôt de récupérer des graines de l'ail des ours, trouvées dans les sous-bois, plutôt que d'arracher le plant lui-même et ainsi de favoriser la dispersion de l'espèce. Sinon, il est possible de trouver des graines dans les magasins. Il faut semer les graines en juillet pour espérer voir le pied pousser la saison suivante. L'ail des ours peut devenir envahissant si on ne le contient pas en divisant chaque année ses touffes aux longues tiges vertes et aux fleurs blanches. Pour ce faire, il faut attendre que le feuillage ait fané et donc ensuite on peut faire la division. À côté de ça, c'est une plante qui n'a besoin d'aucune taille particulière pour perdurer. C'est une vivace qui supporte fort bien les gelées. Hein, soyez pas inquiets là-dessus. Et puis, je pourrais vous dire, je vais laisser Cécile pour la cuisine avec l'ail des ours. Mais à part son utilisation en cuisine, on peut aussi lui reconnaître des propriétés médicinales. Comme pour l'ail commun d'ailleurs, hein. L'ail des ours possède des bienfaits reconnus pour les maladies cardiovasculaires. Elle aide à réduire la pression sanguine dans les artères. Et en même temps, elle a aussi des effets bénéfiques contre certaines maladies virales comme la grippe, contre les vers intestinaux et contre les problèmes gastriques et les diarrhées. Mais parlons-en plutôt dans le bon sens avec la cuisine, avec Cécile.
Oui, alors moi, je n'ai pas encore utilisé les fleurs d'ail d'ours, qui sont d'ailleurs, comme tu l'as dit, absolument ravissantes. On dirait de la dentelle. Par contre, j'ai énormément de chance, car j'ai un bon carré d'ail d'ours qui pousse spontanément chez nous, dans un petit bois. J'en ramasse et j'en fais un espèce de pistou, un peu comme le pistou qu'on fait avec du basilic. Et je crois qu'il faut prendre, disons, si on a 100 grammes d'ail d'ours, on peut ajouter 50 grammes d'huile d'olive, 50 grammes de parmesan, 50 grammes de pignon de pain. Et simplement bien mélanger et le mettre au frigidaire et s'en servir pendant quelques jours ou même peut-être le congeler. Moi, c'est très très bon dans les pâtes, évidemment. C'est très bon dans les omelettes. Et moi, j'en mets un peu. On en met un peu dans tout, quoi. Ou avec les œufs, bien sûr. Les œufs mimosa, on peut ajouter de l'ail des ours. Ça leur donne une très jolie couleur verte.
Voilà, alors on va peut-être parler aussi du chénopode Bon Henri, qu'on dit aussi chénopode, hein, où on ne prononce pas obligatoirement le H, ce qui est en fait tout simplement un épinard sauvage. Alors de façon étymologique, son nom, d'après le traité Rustica des variétés potagères de la ferme de Sainte-Marthe, ça vient de l'allemand, hein, l'allemand ancien, où il était appelé Gut Heinrich. Heinrich désignant les plantes croissant spontanément aux abords des maisons. Ainsi, cet épinard sauvage, réputé pour ses vertus vermifuges, fut qualifié de « Bon Henri » en opposition à un autre adventice spontané dans bien des potagers et que de nombreux jardiniers connaissent bien, pardon, la mercuriale, alors appelée « Mauvais Henri ». Les feuilles du chénopode ou chénopode Bon Henri se consomment exactement comme celles de l'épinard. On les récolte de préférence le matin, au printemps ou en automne. Durant l'été, les feuilles deviennent un petit peu trop dures. Hein. C'est bien aussi de prendre que les sommités, parce que les feuilles du sommet sont toujours un peu plus tendres. À noter que la jeune hampe florale peut être savourée de la même manière qu'une asperge. Voilà. De plus, si on supprime la hampe florale, on va avoir une plante qui va s'épanouir davantage et donc développer donc les jeunes pousses. Cette plante, alors au niveau botanique, peut rester en place plusieurs années de suite. On l'implante en avril-mai pour une première récolte 6 mois plus tard. T'as une recette ?
Moi, je fais l'épinard Bon Henri, je fais exactement comme de l'épinard normal. C'est un épinard de toute façon. Tout à fait. Et j'en ramasse assez souvent et je trouve que c'est vraiment excellent. Et apparemment, ça contient, c'est moins le fer est plus facile à absorber
assimilable.
Que celui de l'épinard normal, de l'épinard de jardin.
On pourrait finir par une bonne salade en cueillette, une salade sauvage. Donc moi, je ne connaissais pas vraiment son nom, même si j'en ai déjà récolté. Hein, ça ressemble à un pissenlit, mais ça s'appelle par ici cabridelle. Alors là, Cécile, tu vas nous raconter.
Alors oui, la cabridelle, c'est une plante qui se niche dans les rochers. Et elle ressemble énormément au pissenlit, mais elle est juste un tout petit peu bleutée et elle est luisante, très glabre. et elle fait des fleurs, quand on la laisse fleurir évidemment, elle fait des fleurs bleues, alors que évidemment le pissenlit fait des fleurs jaunes. Mais quand je la ramasse, je ne ramasse que quelques feuilles à droite et à gauche, parce que c'est une plante qui est tellement ramassée dans certaines régions qu'elle commence à devenir rare. Alors donc, il ne faut pas couper toute la plante, il faut simplement prendre quelques petites feuilles à droite et à gauche. Elle a un goût de noisette et elle est délicieuse en salade à la sauce roquefort.
On en a l'eau à la bouche.
Tout à fait.
Bon, nous arrivons au terme de cette émission qui vous a été présentée par Verger de Lozère, association s'occupant de la sauvegarde du patrimoine fruitier lozérien ancien, et par Jardin Nature 48 qui fait du jardin au naturel, que ce soit au verger, au potager ou au jardin d'ornement. Cette émission de La Terre à l'Assiette vous sera diffusée en semaine paire le samedi à 13h30 et en semaine impaire le vendredi à 17h. Vous pouvez aussi la retrouver sur radiobartas.net. Je vous précise que vous pouvez toujours envoyer des questions ou commentaires au site de la radio ou à l'association Verger de Lozère. N'hésitez pas à communiquer avec nous parce que c'est bien quand la communication se passe dans tous les sens. Donc à bientôt, au mois prochain, pour une nouvelle émission.
À bientôt, au revoir.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.